concevait ce livre quand j'étais en train de travailler dessus, je commençais à le présenter dans des séminaires universitaires, et puis mes collègues français, étrangers, m'ont tous commencé à me dire, mais oui, mais alors qu'est-ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe, que tu décris, au fond, même si c'est sous une forme beaucoup plus douce, évidemment, et heureusement, ça ressemble un petit peu au fameux Lebensborn allemand, c'est-à-dire ces haras humains dans lesquels... Donc je suis entré dans cette période qui, comme vous savez tous, est extraordinairement compliquée hein, dans le cadre de l'histoire de l'Alsace. Et effectivement, ma grande surprise, je me suis rendu compte que ce que les occupants allemands retiennent de la cité jardin Hugemart, c'est que c'est un cadre de vie absolument extraordinaire. Il y a des très belles maisonnettes, dans un style en plus qui leur parle, et puis dans un cadre très vert. Et donc ce qu'ils font, ce que font les occupants, c'est qu'ils tirent parti du fait qu'une partie des occupants de la cité, ça, c'est une histoire que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissez bien, malheureusement, beaucoup d'entre eux ont quitté la cité pendant l'année 39-40 lorsque Strasbourg a été évacuée, sont partis dans, entre guillemets, la France de l'intérieur et ne sont pas revenus. Donc il y a beaucoup de logements qui sont vacants. Eh bien, tout simplement, les occupants allemands en profitent pour y loger soit des officiers, soit des nazis, des responsables de l'occupation, soit également des collaborateurs venus s'installer en Alsace. Des collaborateurs alsaciens. En d'autres termes, ils se servent de la cité. Au fond, c'est un effet d'aubaine, hein, en quelque sorte.
Alors, premier paradoxe. Second paradoxe, la fin de la guerre arrive, la libération également. Et au vu des crimes nazis, on peut se dire que l'eugénisme, cette fois, est balayé une fois pour toutes et envoyé dans la poubelle de l'histoire. Et que, dans un régime démocratique et républicain, l'eugénisme n'a a fortiori plus sa place. Or, étrangement, ça continue.
Voilà, alors là, c'est, je dirais qu'en tant qu'historien, c'est l'une des plus grosses questions auxquelles j'ai pu m'atteler. C'est-à-dire que c'est une histoire, pour moi, en tant qu'historien, qui est assez fascinante, puisque Fertacher, c'est un homme qui conçoit sa cité eugéniste au début du XXe siècle. J'ai oublié de dire qu'il comprenait parfaitement l'anglais, il parle très très bien l'anglais, donc il lit les eugénistes anglais, puisque c'est une théorie qui vient du Royaume-Uni. Et il adapte, au fond, l'eugénisme anglais au cadre qu'il connaît, l'Alsace allemande, qui est l'Alsace allemande jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il commence à l'appliquer. C'est ça le premier paradoxe. Dans les années 20, dans les années 30, on est dans le cadre de la Troisième République. La Troisième République, au fond, accepte tout à fait et soutient même cette entreprise. Et ma grande surprise, c'est que le moment historique dans lequel la cité-jardin a la plus grande pertinence politique, celui dans le moment dans lequel cette cité-jardin, on pourrait dire, parle le plus aux élites nationales, les élites politiques, les élites administratives, les élites judiciaires, les élites savantes, c'est l'après-Deuxième Guerre mondiale, sont les années 50. Ça, c'est vraiment le grand paradoxe. Alors, comment le comprendre? Peut-être qu'on va y venir progressivement. La première clé très importante à avoir en tête, c'est qu'en France, comme dans la quasi-totalité des pays d'Europe, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, on ne sort pas du tout de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 avec l'idée selon laquelle l'eugénisme est une idéologie intrinsèquement criminelle. On sort avec l'idée selon laquelle il y a un bon eugénisme et un mauvais eugénisme. Il y a un eugénisme qui a mené aux stérilisations, qui a mené aux politiques criminelles d'élimination de partie de la population par les nazis. Mais il y a aussi un eugénisme qui a une fonction dans la société, un eugénisme qui essaye, c'est l'expression de l'époque, d'améliorer la population, rendre les gens plus solides, plus sains, moins chétifs. Et donc, le travail des années 1950, 1960 encore, consiste au fond à séparer le bon grain de l'ivraie, à distinguer le bon et le mauvais eugénisme. Ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que le mot eugénisme déclenche une espèce de feu rouge et dans lequel on dit « Attention, l'eugénisme, il y a toujours un risque de déviation qui peut devenir très très dangereux, voire criminel. » Ça, c'est assez récent. C'est quelque chose qui date des années 70, des années 80. Dans les années 50 et 60, c'est pas du tout ça qui se passe. On essaye de séparer les deux. Et de ce point de vue, l'expérience, parce qu'on employait le mot plusieurs fois, la cité-jardin de Lyoma, dans l'esprit d'Alfred Dachert et dans l'esprit de tous les soutiens qu'il a autour de son projet, c'est une expérience. C'est un laboratoire humain. Hein, c'est l'expérience, c'est le mot qu'il emploie, Alfred Dachert. J'ai construit dans la cité-jardin un laboratoire humain. Eh bien, cette expérience, elle est considérée en France et à l'étranger, dans les milieux savants, comme une expérience extrêmement positive, qui effectivement se donne pour tâche, on va voir comment, d'essayer justement d'améliorer la population, d'augmenter la part des éléments précieux, hein, c'est l'expression employée, au sein de la population française.
Alors tout est pensé, tout est construit en vue de cet objectif. Les maisons sont coquettes, elles sont aménagées de façon moderne, elles disposent d'un jardin, parce que ça contribue aussi, l'air pur fait partie des choses qui améliorent la santé des enfants comme des parents. La femme à l'époque ne travaille pas, tout est donc de plein pied pour éviter d'avoir à monter, descendre, faire des allées-venues inutiles. Il y a même une école qui est installée au sein de la cité jardin, et puis les courses quotidiennes sont livrées. Enfin, tout est fait pour que la femme se consacre à la reproduction de l'espèce. Et ça fait partie de la clause, c'est la clause de progéniture qui est signée, puisqu'il y a une véritable enquête qui est faite. Les gens qui postulent pour devenir locataire dans cette cité jardin, on se renseigne sur eux, on va voir où ils habitent. Comment ils tiennent leur intérieur, s'ils sont, comme on dit, de bonne moralité. Et puis, ben, ils s'engagent, donc on voit qu'ils sont des couples assez jeunes, ils s'engagent à se reproduire, parce qu'ils sont là pour ça. Mais parfois, ça ne marche pas. C'est la vie. Et on voit toutes les difficultés qu'ont les administrateurs ou Alfred Dachert pour expliquer aux gens que ben, maintenant, vous n'avez pas rempli votre part de contrat, il faut quitter les vieux.
Alors, sélection, hein, c'est la grande phrase de Alfred Dachert, la sélection fait tout. Alors, comment est-ce qu'on peut sélectionner d'abord les candidats, les couples candidats? Eh bien, l'argent du sucre, ce fameux argent, ce gain considérable de la Première Guerre mondiale, il sert à édifier la cité, mais il sert aussi à donner une prime aux ménages locataires, aux ménages résidents dans la cité Ungemar, qui paye, qui acquitte un loyer qui est de 25% inférieur au prix du marché à Strasbourg. Donc évidemment, c'est extrêmement attractif, surtout pour des jeunes couples qui doivent fonder une famille. Donc, en gros, on peut dire que il y a à peu près, pour une maison qui se libère, vous avez 15-20 couples candidats. Et donc, c'est les élections à l'os, hein, on peut facilement avoir matière à sélectionner les couples. Et on les sélectionne, effectivement, en fonction de leur qualité intellectuelle, physiologique et morale supposée. Ça, c'est vraiment un aspect absolument central de cette expérience. Donc, la dimension biologique joue un rôle très important. Il y a des critères. Les couples remplissent un formulaire d'entrée. C'est un peu comme les examens d'aujourd'hui. Il y a un écrit et un oral qui est venu ici. Donc les candidats remplissent un formulaire, et ceux qui sont présélectionnés font l'objet d'un oral. Une commission vient visiter l'endroit où ils résident, avant d'être à la cité Ungemar, dont Alfred Dachert lui-même, un employé de la mairie, et alors, peut-être que vous connaissez cette maison, un dératiseur qui vient s'assurer que la maison est propre, qu'il n'y a pas de vermine, que le couple est vraiment propre. Et ce dératiseur, il a toujours pignon sur rue. Je les ai appelés, malheureusement, ils n'ont pas d'archives. C'est Tchoupe. Alors peut-être que vous connaissez Tchoupe. Voilà, c'est Tchoupe qui, je pense, le grand-père, qui s'occupait, qui était dans cette commission. Et ce qui est passionnant, c'est que le formulaire rempli par les couples, qui est vraiment l'œuvre d'Alfred Dachert, hein, comment sélectionner les gens, il va rester en place, on y reviendra, jusqu'aux années 80, hein, de manière totalement inchangée. Là, il y a des questions pièges dans le questionnaire. L'une des questions pièges, c'est est-ce que l'épouse travaille? Si le couple répond oui, il est éliminé tout de suite. L'épouse n'a pas le droit de travailler. Alors, on attendait effectivement qu'elle mette au monde des enfants. Ça, je dirais que c'est assez logique dans une perspective eugéniste. Hein, elle a été bien choisie. Il faut qu'elle mette au monde le plus d'enfants. C'est logique. Tout cela est très logique. C'est scientifique, si vous voulez. Mais il y a également une autre considération qui est plus intéressante, plus surprenante. On attend de l'épouse qu'elle s'occupe des enfants, qu'elle investisse sur la qualité des enfants. Et donc, c'est la raison pour laquelle on la ravitaille. Hein, il y a un petit camion qui vient tous les jours. D'ailleurs, ce qui est dit également, c'est que ça permet aux mères de famille de perdre du temps, d'éviter de perdre du temps en bavardage. Hein, peut-être qu'on va faire les courses dans la ville, voilà, elle va avoir un petit peu trop. Et effectivement, et là, c'est quelque chose de très moderne, hein, on est dans les années 20. Fred Achert, c'est un homme d'affaires très internationalisé, il connaît l'Angleterre, il connaît même les États-Unis, et il applique les théories managériales de son époque. Et à son époque, tout ce que vous connaissez sur le film de Charlot sur les temps modernes, l'organisation scientifique de l'usine, c'est appliqué aussi dans les maisons. Vous avez des schémas, vous avez une fordisation, hein, une modernisation de l'espace domestique, vous avez des schémas qui cherche à minimiser, à réduire le plus possible les déplacements de la mère de famille dans la maison pour qu'elle ait le moins de stress possible. Donc la cité Jardin-Longuemare, elle sert à réduire le stress du père de famille qui va aller gagner son pain en allant travailler à Strasbourg, qui va rentrer le soir, aura un cadre de vie très agréable, donc il ne sera pas stressé, et donc ça sera bien pour la qualité des enfants. Et la mère de famille aussi, qui est aussi une manière, quand même, de considérer que la mère de famille a un travail qui est valorisé pour la société. Ça n'est pas rien. Il faut qu'on réduise aussi son stress. Donc les courses arrivent à domicile. Et puis, les petits pavillons de marche sont faits de telle manière que, dans un endroit central de la maison, la mère de famille, ça c'est un petit peu, évidemment, vu par un homme, peut, à la fois, d'un œil, contrôler ce qui se passe dans la cuisine, d'un autre œil, contrôler ce qui se passe dans la buanderie où se prépare le linge, et en même temps, en tournant le dos, regarder les enfants dans leur maison, s'assurer que les enfants ne font pas de bêtises, etc. Donc, c'est vraiment un espace. L'idée, c'est la mère de famille, sans se déplacer, que tout contrôler à la fois pour réduire le stress. Et tout ça, c'est fait pour que les enfants des cités Longuemare aient le recueil de leurs parents, le plus de qualité possible, le plus d'attention possible, avec le moins de stress, d'énervement et d'irritation possible.
Alors, après-guerre, il y en a la Cour de cassation en 1949 qui autorise la poursuite d'expérience, on veut dire d'expérimentation, et puis c'était prévu dans les statuts, au 1er janvier 1950, c'est la ville qui hérite de la gestion de la cité Longuemare. Et la ville, évidemment, va être à son tour sollicitée par tous ceux qui aimeraient intégrer ce cadre idyllique. Et elle va devoir apprendre à dire non. C'est un peu comme les éditeurs, il faut qu'ils apprennent à dire non. Et pour justifier à chaque fois le refus des locataires éventuels, elle répondra que les règles de la location de Longuemare, entre guillemets, toujours les guillemets, échappent au droit commun. On va de surprise en surprise, en fait.
Voilà, parce que alors, c'est le point très délicat. Sélectionner les couples, bon, au fond, ça marche pas mal. Ça ne pose pas de problème particulier. Donc, on recrute des couples de valeur, on attend d'eux qui mettent au monde beaucoup d'enfants, et on leur met à disposition, c'est formidable, c'est très beau et très ergonomique, pavillon. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe effectivement avec ceux qui traînent un peu à mettre des enfants au monde, qui en mettent un ou deux au monde et puis qui s'arrêtent là. Qu'est-ce qu'on en fait? Elles ne sont pas faites pour ça, elles sont faites pour favoriser ce qu'on appelle dans la démographie française, encore dans les années 50, les souches saines et fécondes. Hein, les souches saines et fécondes. Donc fécondes, pas fécondes, ça ne va pas. Bon, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au fond, ces couples-là commencent à faire l'objet d'une pression. Alors, dans les années 30, la cité Longuemare est gérée donc par une fondation, la fondation Longuemare, hein, gérée par la famille et surtout par Alfred Dachère. Là, c'est informel. C'est Dachère qui vient faire pression, d'abord aimablement, puis ensuite un tout petit peu moins aimablement, puis de plus en plus fortement, disons. Et puis... Donc c'est assez étonnant parce que tous les ans, une commission vient visiter chacune des maisons à une date surprise. Les locataires dans le contrat de location s'engagent à laisser accès à leur maison au membre de la commission à tout moment. Donc la commission entre dans la maison, inspecte, met des notes. Elle met des notes en particulier sur la propreté des parents. Et puis elle donne des avertissements. Et l'un des avertissements les plus graves, c'est vous n'avez mis au monde qu'un enfant depuis que vous êtes arrivé. Nous vous donnons 18 mois pour mettre au monde le deuxième. Et ce que j'ai pu observer, c'est que tous les couples qui font l'objet d'un avertissement dans l'entre-deux-guerres, soit passent à l'acte, c'est-à-dire dans les délais donnés, ils mettent au monde l'enfant requis, soit quittent la cité-jardin. C'est-à-dire c'est du 100%. Hein, voilà, c'est vraiment une saine gestion de la population. Et effectivement, ça devient plus compliqué dans les années 40. Non pas seulement à cause de la Deuxième Guerre mondiale, mais parce que c'est dans les années 40 que le droit de la location se développe en France à l'échelle nationale et donne des droits de plus en plus importants aux locataires par rapport aux propriétaires. Vous en connaissez tous le fruit, c'est la fameuse loi de 1948. Hein, la loi de 1948, elle vient concrétiser ce processus d'élargissement des droits du locataire. Et là, le problème commence pour la cité-jardin. C'est-à-dire que là, ça devient quand même plus difficile de... Et donc, comme vous l'avez évoqué, en 1949, l'un des locataires de la cité-jardin, qui a reçu une lettre des pressions, juste avant le prise de contrôle par la mairie, donc par la fondation, on vient voir en disant, voilà, vous n'avez mis au monde qu'un enfant, il faut que vous quittiez le pavillon. Et là, le locataire ne se laisse pas faire, parce que désormais, il y a un droit d'allocation. Il va devant les tribunaux, il perd en première instance, il perd en deuxième instance, et il monte à la Cour de cassation. Il monte en Cour de cassation. Donc là, vous imaginez, en Cour de cassation, le procès, c'est la Fondation Guémard me demande de laisser mon pavillon, de quitter mon bail, parce que je n'ai pas mis au monde assez d'enfants. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette injonction. Eh bien, le locataire perd devant la Cour de cassation. Et la Cour de cassation reprend les attendus des deux premiers arrêts en première et deuxième instance, dans lesquels les objectifs eugéniques de la Fondation avaient été mentionnés. C'est-à-dire qu'en gros, on considère que, dans le cas de la cité Ungemar, on peut faire une exception, une dérogation au droit d'allocation, on peut tout à fait mettre fin au bail d'un couple qui ne met pas au monde assez d'enfants, parce que la cité Ungemar correspond aux objectifs de la politique publique française de l'époque. Et ça, évidemment, c'est un arrêt fondamental. Il a lieu juste avant que la cité Ungemar passe sous le contrôle de la municipalité de Strasbourg. Et donc, il permet à la municipalité de Strasbourg, si elle le désire, de continuer l'expérience.
Est-ce qu'on a des résultats chiffrés, des statistiques sur les résultats de l'expérimentation ? Est-ce que c'est probant ?
Alors, on a énormément de résultats, puisque on est dans une période... les années 30, ensuite les années 50, dans lesquelles cette idée d'expérimentation est très à la mode, surtout dans les politiques urbaines. Vous avez beaucoup de villes françaises qui font du logement social, qui dressent des statistiques dans tous les sens. Et c'est ce que faisait Alfred Dachert. Il était très très soigneux. Il dressait des statistiques sur la fécondité des couples de sa cité-jardin, sur la taille des enfants, sur le poids des enfants, sur la propreté des parents, qui fait vraiment des statistiques. Et ces statistiques sont très connues, sont tout à fait publiques, parce qu'avec, il fait ce qu'on appelle aujourd'hui des posters, des grandes affiches qui circulent dans les expositions d'hygiène de l'époque. À l'époque, l'hygiène, c'est vraiment une très grande préoccupation pour les populations. Il faut rappeler que c'est très concret, on est dans un monde, hein, vous le savez tous, dans lequel il y a encore beaucoup de maladies infectieuses qu'on ne sait pas traiter, on est juste avant les antibiotiques, et donc une bonne manière de se protéger contre la mortalité infantile, contre un certain nombre de maladies, c'est d'être très hygiénique. Donc les gens vont dans les expositions d'hygiène. Et donc, en 1935, il y a eu une exposition d'hygiène internationale très importante à Strasbourg, et on a un énorme poster de la cité jardin Ungemar dans laquelle on compare le poids des enfants Ungemar avec le poids des petits-enfants français et allemands, leur taille, la propreté du parent est mise en avant, et puis le taux de fécondité est effectivement très élevé. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la cité où le marque marche bien, elle marche tellement bien que dans les années 50, Alfred Sauvy lui-même, donc le plus grand démographe français du XXe siècle, qui dirige l'Institut d'études démographiques, au sein duquel j'ai mené l'étude, il a fallu que j'explique un petit peu au directeur du NET que dans leurs archives, il y avait des choses un petit peu compliquées. Bon, ils ont un petit peu, toute petite grimace, mais ils m'ont accepté que je fasse l'étude, bon, si j'ose dire. Alfred Sauvy s'intéresse à l'expérience Ungemar et dit bah, je vais vous affecter un démographe qui va venir certifier vos chiffres, hein, vous enverrez toutes les. Et donc, la mairie de Strasbourg envoie chaque année toutes les données de naissance dans la cité Ungemar, et puis l'INET fait un petit tableau statistique pour valider que la fécondité dans la cité est effectivement très élevée.
Alors, on ne peut plus rentrer dans les détails, mais simplement, même s'il faudrait que vous lisiez le livre, parce que c'est un grand travail d'historien, vraiment, l'expérimentation s'achève au début des années 80. Est-ce que vous pouvez juste nous retracer rapidement comment finalement les choses arrivent à leur terme ?
Oui, si, elles arrivent à leur terme en fait pour partie. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que jusque dans la moitié des années 1960, donc, comme je l'ai dit, l'expérience Ungemar correspond très bien aux grandes politiques publiques de la France de l'époque, les politiques démographiques, les politiques sociales même, hein, on peut montrer. Je suis intéressé dans le livre, qu'il y a une convergence d'intérêts, une convergence d'objectifs entre les buts d'Alfred Taschert et ceux de la sécurité sociale, hein, créée en 1945, comme on l'a vu. La sécurité sociale, elle aussi, en 1945, elle se donne pour but, on va oublier, d'améliorer la population, d'augmenter la quantité de la population et la qualité. Donc, la cité Ungemar est tout à fait à la mode, si on peut dire, dans les années 50. Ça reste encore le cas dans les années 60. Dans les années 60, les choses commencent à se renverser. Et là, bon, les pouvoirs publics finissent par s'intéresser moins à l'expérience. Et donc, c'est au sein de la mairie de Strasbourg qu'a lieu une hésitation. Est-ce qu'on peut continuer ? C'est évident que plus on avance dans le temps, plus, disons, la contradiction avec le droit du logement, les protections des locataires, pose problème. Le service du contentieux de la mairie de Strasbourg, donc le service des affaires juridiques de la ville, n'aime pas du tout l'expérience de Ungemar. Il dit, mais c'est pas possible, on peut, malgré l'arrêt de la Cour de cassation en 49, on ne peut pas continuer éternellement à envoyer des lettres de résiliation de bail aux ménages parce que leur enfant le plus jeune atteint l'âge de 21 ans. Parce que c'est ce qui se passe dans les années 60-70. Une fois que votre dernier enfant est majeur, vous devez rendre la maison. Vous recevez un courrier de la ville tout à fait officiel. Bon, le service du contentieux, c'est un peu trop sensible quand même. Mais le directeur de la division immobilier de la mairie de Paris, Robert Bayard, qui est le premier adjoint de Strasbourg, hein, qui devient le premier adjoint du maire avec Pierre Frimelin, c'est Bayard qui, au fond, dit non, il faut continuer l'expérience dans les termes tels qu'ils ont été définis, et il est suivi par sa direction. Et donc, aussi longtemps que Bayard est en vie, ce qui est tout à fait étonnant, les règles de sélection des ménages, le fameux formulaire, restent en place, et puis les règles également, le petit courrier qu'on reçoit lorsque le dernier enfant devient un peu trop âgé, continuent à être envoyés jusqu'au milieu des années 80. Jusqu'au milieu des années 80, j'ai des traces de couples. Alors, un exemple très concret, pour entrer dans c'est un des aspects eugénistes de la chose, pour avoir accès à ces pavillons, il faut être en bonne santé. Et ça fait partie des questions pièges. On demande aux couples, est-ce que vous êtes en bonne santé ? Et les couples qui sont malades, ou qui ont un enfant handicapé, ou qui ont eu le père a eu un accident du travail, envoient un certificat médical en se disant c'est du logement social, ça va me donner un petit prix. Et là, la mairie, surtout pas, éliminer tout de suite. Voyez. Ça dure jusqu'au milieu des années 80. Et puis c'est avec la mort de Robert Bayard que les choses vont se relâcher lentement. Alors hier, j'ai eu la chance de faire un petit reportage, non seulement dans la cité, mais également auprès d'un ancien responsable de la ville, cette fois-ci plus tard, sous le mandat de Catherine Trautmann. Et en fait, il est resté quelque chose de cette tradition du côté des familles nombreuses. Il est resté quelque chose jusque dans les années 90. Au fond, il y a eu une dilution progressive des règles du jeu. Ça n'a pas été du jour au lendemain.
Alors, c'est la parole au public, évidemment, s'il y a des anciens éducateurs qui s'y tiennent également, je vous invite à prendre la parole.